Welcome to the channel of Servants of the Lord Ministries.
Bienvenue sur le canal de Servants of the Lord Ministries. Je m'appelle Darren Roy. Je suis le coordinateur international adjoint et je travaille sous la direction de Dr. Keith Jenkins. Le message d'aujourd'hui s'appelle l'Avent. Parce que la plupart des pays occidentaux et la plupart des chrétiens du monde entier fêteront Noël ou se réjouiront de fêter Noël au moment où cette vidéo sera publiée ou un peu plus tard. Le message d'aujourd'hui s'appelle l'Avent, car ceci est une période que la plupart des gens considéreraient comme une période de célébration ou d'attente introduisant Noël ou le jour de Noël. Lorsque nous nous souvenons que Jésus est venu sur cette planète pour prendre une forme humaine, pour vivre une vie comme la nôtre d'une manière parfaite en accomplissant la loi et toutes les promesses de Dieu, afin que nous puissions être sauvés grâce à lui. C'est formidable. Nous célébrons donc cette période, nous jetons un regard en arrière de manière symbolique. J'ai entendu des chansons que les gens chantent le jour de Noël en disant « Le Christ est né aujourd'hui » ou « Le Christ est né aujourd'hui ». Il n'est pas vraiment né aujourd'hui, il est né il y a plus de 2020 ans, mais nous le célébrons et nous nous en souvenons au moment du Noël. Ce mot avant, signifie une arrivée importante. Il signifie une venue, donc une arrivée ou une venue. C'est ce que signifie l'avant. La plupart des gens pensent que c'est ouvrir un calendrier comme un calendrier de l'avant où vous l'ouvrez et il y a des friandises derrière chaque jour et vous le prenez pour tous les jours de décembre jusqu'au jour de Noël. Mais l'avant ne signifie pas le temps qui précède Noël, bien qu'il puisse le faire si vous voulez dire une venue, mais l'arrivée la plus importante était en fait le jour de Noël, n'est-ce pas? Cependant, le vrai jour de Noël, quel que soit le moment de l'année où Jésus est venu sur la planète, donc si nous considérons l'Avent et le fait que Jésus est venu une fois sur cette planète, nous devons reconnaître qu'il reviendra encore. Il revient encore et il y a un deuxième avant, il y a une deuxième venue, il y a une deuxième arrivée très importante et nous voulons être prêts. Nous voulons être des gens qui sont prêts pour cette arrivée importante. Nous sommes appelés à être des gens qui sont prêts pour cette arrivée importante. Jésus reviendra, il l'a promis. Donc, nous voulons être des gens avec une attente, avec des cœurs ouverts, avec sincérité, ferveur et passion pour lui, le cherchant, prêt pour son retour. Il y avait quelqu'un comme ça dans les Écritures, Siméon, peut-être que nous allons regarder cela, qui attendait que Jésus vienne la première fois et il l'a fait et ce que Dieu lui avait promis s'est accompli. Nous voulons être des gens qui s'attendent à ce que Jésus revienne et il peut revenir à n'importe quel moment. Il y a certaines Écritures que les gens consultent pour essayer de les comprendre et de les aligner, mais notre responsabilité est de chercher Jésus, de le connaître et nous reconnaissons que tout finira par s'arranger. Nous ne savons pas à quel moment il reviendra. Nous ne savons pas si ce sera maintenant, si ce sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous n'en avons aucune idée. Mais nous vivons dans l'attente de cette arrivée importante. Amen. À l'approche de Noël, beaucoup d'entre vous auront ouvert des calendriers de Noël et sorti un chocolat ou un jouet ou regardé une image à l'intérieur chaque jour. Et c'est comme si vous ouvriez le calendrier, vous ouvriez une porte et vous trouvez un trésor derrière, il y a un cadeau derrière. Et je crois que c'est comme ça dans nos vies. Que chaque jour, tu as quelque chose de vraiment important à faire pour nous. Il y a quelque chose, enfin, plus d'une chose, mais il y a des choses qu'il veut que nous fassions, que chaque jour menant à son deuxième avant, sa deuxième venue, sa deuxième arrivée, nous ouvrions cette porte et regardions à l'intérieur pour voir quelle surprise, quelle gâterie ou quel cadeau il y a pour nous aujourd'hui. Parce que chaque jour est un cadeau pour faire quelque chose par amour pour lui, pour faire quelque chose parce que nous l'aimons, pour lui montrer notre amour par l'obéissance, pour vivre la journée comme il veut que nous le fassions. Maintenant, ce n'est pas seulement chaque jour qu'il y a quelque chose à nous faire. Si nous marchons alignés avec l'Esprit, c'est chaque minute, chaque seconde qu'il peut envoyer un signal et diriger notre vie. Mais alors que nous attendons le retour de Jésus, son second retour, sa seconde venue, nous voulons nous assurer que nous sommes des gens qui tirent le meilleur parti de chaque jour. D'une certaine façon, nous comptons nos jours Comme Moïse dit que nous compterions nos jours et que nous aurions un cœur de sagesse pour tirer le meilleur parti de chaque opportunité, il va vraiment revenir. C'est merveilleux. Et si les gens s'enthousiasment pour Noël, la plupart des gens dans le monde qui ne suivent pas Jésus s'enthousiasment parce que Noël représente en termes de cadeaux et d'être en famille et ils s'enthousiasment, mais en tant que croyants, nous pouvons en quelque sorte nous enthousiasmer en regardant vers Noël et en réalisant ce dont il s'agissait vraiment. Mais à quel point devrions-nous nous réjouir de ce qui s'en vient? Du fait que notre roi revient, que Jésus revient et qu'il veut que nous soyons prêts. Il veut que nous soyons vainqueurs. Il veut que nous soyons prêts. Et nous attendons avec impatience son retour. Mais quelle était la raison de sa première arrivée? Quelle était la véritable signification de Noël? La plupart des gens penseraient qu'il s'agit d'un petit bébé dans une crèche. Eh bien, il y a une surprise, n'est-ce pas? Notre roi ne revient pas en tant que bébé. Il revient en tant que roi conquérant. Roi des rois et seigneur des seigneurs, le juge à venir, c'est lui qui reviendra, pas un petit bébé cette fois, doux et gentil, mais un Dieu puissant, prêt à juger et à rendre à chacun ce qu'il a fait. Cela devrait nous inspirer une sorte de sobre révérence, n'est-ce pas, à propos du prochain retour. Mais quelle était la raison de son premier retour? Quelle était la raison? Regardons les Philippiens. Regardons le chapitre 2, dans Philippiens, verset 5. Chapitre 2 de Philippiens, verset 5, qui dit « La raison de son retour, de son premier retour, est la même que celle de sa première venue. Ayez en vous l'esprit qui était aussi dans le Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a pas cru devoir être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de toute réputation en prenant la forme d'un esclave et en devenant semblable aux hommes. Ayant l'apparence d'un homme, il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu, le Père. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette planète. C'est la raison pour laquelle Jésus est né comme un bébé. Non pas pour être le bébé, mais pour mener à bien sa vie et être obéissant dans tout ce que le Père lui demandait de faire. Il s'est humilié et est devenu sans réputation. Nous suivons Jésus. Si nous suivons Jésus, nous devons nous assurer que nous suivons ce roi humble, que nous suivons son exemple. Laissez en vous l'esprit qui était dans le Christ Jésus. Il n'a pas vu cela comme un vol ou il n'a pas vu que le fait d'être égal à Dieu était quelque chose qu'il devait rechercher, saisir et prendre. Mais il s'est humilié, il s'est dépouillé de tous ses privilèges légitimes pour devenir comme un serviteur. Notre Jésus est devenu un serviteur. C'est étonnant que ce ministère s'appelle Servants of the Lord Ministry, ce qui veut dire le ministère des serviteurs du Seigneur. Les serviteurs du Seigneur, serviteurs de celui qui est venu le premier en tant que serviteur, serviteur de Jésus-Christ qui a maintenant reçu le nom au-dessus de tout nom, ce nom du Seigneur. Nous sommes serviteurs de ce Seigneur du roi, des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous devons confesser et reconnaître qu'il est le Seigneur maintenant, qu'il est le Maître. Il est celui qui a le droit de contrôler nos vies. Il est celui qui nous possède et qui a le droit de nous posséder, de faire ce qu'il veut. Nous sommes à sa disposition. Nous l'attendons. Il est notre roi. Nous devons laisser être en nous l'esprit qui était dans le Christ Jésus. Et il a vécu une vie sur cette terre à une époque très misérable. Il a dû échapper à des gens qui le pourchassaient ou sa famille, ses parents adoptifs, dirons-nous, ont fui avec lui pour le garder en vie. Il a vécu une courte vie, mais il a accompli toutes les promesses de Dieu et toutes les directives de Dieu dans cette courte vie. Quel exemple pour nous, et c'est le roi que nous suivons. Un roi qui a choisi de se salir les mains, vous savez, dans le sens de ne pas se salir dans le péché, mais comme pour vivre la vie que nous devrions vivre et pour nous montrer comment la vivre. Ce roi va arriver, va revenir, et il a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à quel point seriez-vous obéissant? Est-ce que vous irez jusqu'au bout de votre obéissance, quel que soit l'appel que Dieu vous a lancé? La plupart d'entre nous n'auront probablement pas à mourir ou à donner leur vie, mais nous devons certainement être prêts à le faire et nous devons renoncer à nos choix personnels, à nos préférences et à notre vie dans ce monde. Nous devons renoncer à nos agendas et à nos plans et nous devons mourir à la chair et vivre selon l'Esprit. Amen. Mais l'obéissance de Jésus est très spéciale. La parole qui est dite dans les Philippiens au verset 8 où il est dit « Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix », ce mot « obéissant », il est tiré de Strong. C'est le numéro Strong, numéro 5255, qui veut dire, qui est en grec, c'est « upekous ». Tu sais ce qu'il signifie? Il ne signifie pas seulement l'obéissance, il signifie l'écoute attentive, prêtée. Prêter l'oreille à l'obéissance. Maintenant, il n'est utilisé que 3 fois dans les Écritures, mais il décrit Jésus ici dans son obéissance à la croix. Dans son obéissance à la mort sur la croix, il était attentivement à l'écoute. C'est comme un mot hébreu que j'aime beaucoup, appelé hineni, et qui signifie écouter le Seigneur, être prêt à faire sa volonté, écouter ses instructions. C'est ce que faisait Jésus, il écoutait attentivement son Père. Et si nous voulons que l'Esprit qui était dans le Christ, Jésus, soit en nous, alors nous voulons être des personnes attentives à notre Père. Eh bien, attentives à Jésus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, prêtons attention, écoutons attentivement pour faire sa volonté. Tu pourrais penser, eh bien, si le fait d'écouter attentivement me permet d'arriver là où Jésus est arrivé, alors je ne suis pas sûr de vouloir faire cela. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Il a le plan pour ta vie. Nous n'allons pas tous devoir littéralement donner notre vie, mais nous devons y être préparés. Mais nous devons certainement vivre pour celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus est mort pour nous. Nous vivons maintenant pour lui. Amen. Laissez donc en vous l'Esprit qui était dans le Christ Jésus. Alors que nous attendons son retour, son second retour, son second avènement, sa seconde venue. Quelque chose d'incroyable. Je veux dire, j'aimerais être en vie et peut-être que je crois que je le serai, mais j'aimerais être en vie quand il reviendra et voir cela. Mais de toute façon, peu importe que nous soyons morts ou vivants, ceux qui sont vivants ne précéderont pas ceux qui sont morts. De toute façon, ce sera absolument génial quand Jésus reviendra. Alors, attendons-nous et ayons cet esprit du Christ en nous, car dans cette humilité, continuons à regarder vers lui, ayons ce cœur d'obéissance qu'il a démontré. Amen. Reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons besoin d'un esprit d'obéissance et d'un cœur d'obéissance. Et nous pouvons dire, oui, nous dirons, faites de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Et ce que nous voulons dire par là, c'est que Jésus-Christ a le droit de contrôler, de diriger, de mener notre vie, votre vie, à chaque minute de chaque jour. Il est le maître, il est celui qui mène la barque, c'est ce que nous voulons dire par cela. Mais nous ne voulons pas dire que vous allez le faire, Seigneur, comme si vous allez dire, d'accord Jésus, et tu es maintenant le Seigneur, il est déjà le Seigneur, il est déjà le Maître, il a déjà le contrôle, le Père qui lui a déjà donné le nom qui est au-dessus de tout notre nom. Notre responsabilité maintenant est de nous soumettre à cela, de le reconnaître et de l'accepter, de fléchir le genou maintenant, fléchir le genou devant Jésus-Christ, fléchir le genou devant sa Seigneurie. Amen. Lorsque nous pensons à Noël et à la première venue de Jésus sur cette terre, nous avons un exemple de quelqu'un qui attendait Jésus, qui s'attendait à le voir parce que Dieu lui avait promis qu'il le verrait. Je ne sais pas comment cela va se passer pour nous, mais je sais qu'il y aura certainement une génération qui ne passera pas avant de voir tous les différents signes se réunir et le retour de Jésus. Mais regardons Siméon dans le chapitre 2, Luc 2, chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Siméon était un homme pieux et à qui Dieu avait promis qu'il verrait le Messie avant de mourir. Et voyez comme il était heureux, excité, enthousiasmé, laissez votre serviteur partir en paix, comme dans le désir, l'ambition et les espoirs de ma vie ont été réalisés. J'ai vu le Christ en cet enfant qui a été amené au temple selon la coutume. C'est incroyable. Maintenant, je ne sais pas si Dieu vous a dit cela. Je ne sais pas si Dieu vous a dit que vous verrez la seconde venue de Jésus sans second avènement, mais il y a certainement des signes dans les Écritures sur ce qui sera autour de ce moment. Nous voulons donc nous assurer que nous ne nous contentons pas de regarder les signes, de lire des choses dans chaque petit, comme chercher les conspirations et chaque petite chose qui arrive, mais avec l'esprit, tu sais avoir une ouverture à l'esprit pour voir ce qui se passe et réaliser à quel point ce monde est fragile, à quel point les choses peuvent changer à tout moment. Regarde COVID, comment il a fermé le monde et comment les gens étaient dans leur maison et n'avaient pas le droit de sortir. Personne n'aurait jamais pensé que cela se produirait. Il y a des guerres, des tremblements de terre, des volcans qui explosent et toutes sortes de choses partout dans le monde. Et je ne dis pas que ces choses sont tout à fait inhabituelles, mais ce que je dis, c'est que sois conscient que ce monde est fragile et qu'il est en train de disparaître. Alors, je ne sais pas si Dieu, il pourrait le faire, et s'il a fait, et si le Saint-Esprit t'a témoigné que tu seras en vie, alors tu te réjouis, parce que Dieu tiendra ses promesses, tout comme il a tenu ses promesses à Siméon. Si tu seras en vie pour voir le retour de Jésus et que Dieu te l'a dit par le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais je crois que Dieu a parlé à Siméon de cette façon pour une certaine raison, parce qu'il est dit que c'était un homme juste et pieux, ce qui veut dire qu'il craignait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu, il honorait Dieu et il veillait à ne pas l'offenser. C'est un homme juste, un homme sûr dans sa foi. Je veux dire révérencieux serait un bon mot. Révérencieux est dans la définition de Strong. Il était révérencieux envers Dieu. Donc, si nous voulons être des gens qui peuvent entendre ce genre de choses de la part de Dieu, nous voulons nous assurer que nous montrons une certaine révérence pour faire ce que Dieu nous a déjà dit de faire, et que nous montrons une certaine révérence, une certaine crainte et un certain respect envers lui. Amen. Mais Siméon avait été choisi et il a vécu une vie pieuse. Mais tu sais ce qui est étonnant, il est dit qu'il était rempli de Saint-Esprit. Combien plus par le don qui nous a été donné par Jésus-Christ, combien plus devrions-nous être remplis du Saint-Esprit et marcher dans l'Esprit selon le don de Jésus-Christ qui a permis aux païens, aux croyants, aux juifs d'entrer dans la présence de Dieu et de vivre avec lui. Quel cadeau merveilleux. Et si Jésus revient, eh bien, il reviendra, mais quand Jésus reviendra en tant que juge, nous ne voulons pas nous retrouver dans un endroit où nous n'avons pas profité au maximum de l'occasion qu'il nous a donnée, parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans sa présence, pour avoir l'amour, la joie et la paix, pour que nous soyons nous ayons le pouvoir de vivre la vie chrétienne. Il a donné sa vie pour cela. Nous ne voulons pas être des gens qui ne profitent pas au maximum de cette opportunité et qui, vous savez, se retrouvent face à lui lors du jugement avec cela sur le dos. Soyons des gens remplis de l'esprit qui font ce que Dieu veut que nous fassions, obéissants, respectueux, suivant l'exemple de Siméon d'une certaine manière et en étant respectueux et craignant Dieu. Amen. À l'écoute de ces instructions qu'il a pour nous. Il est dit ici, au verset 27, qu'il est entré par l'esprit dans le temple. C'est fascinant. Certaines traductions le disent comme conduit par l'esprit. Il est entré dans le temple. Dieu lui a donné la promesse qu'il verrait le Messie. Et comment cela s'est-il produit? Comment était-il entré dans le temple le même jour? Parmi toutes les personnes dont les enfants étaient présentés à différents moments au temple, comment a-t-il su que c'était le moment d'être là? Comment a-t-il su que c'était là qu'il fallait être pour que la promesse de Dieu s'accomplisse? Il ne savait pas. Mais comment a-t-il su que c'était le moment d'entrer dans le temple? Il a été conduit par le Saint-Esprit. La promesse de Dieu s'est réalisée dans sa vie parce qu'il a été conduit par l'Esprit. Il a été guidé par l'Esprit dans un temps petit, dans un tout petit détail. Les gens pensent que Dieu ne veut répondre qu'aux grandes choses et peut-être à certaines petites choses, mais pas vraiment aux petites. Dieu, le Saint-Esprit, a guidé cet homme, Siméon, dans le temple. C'est un peu comme s'il y avait un bâtiment d'église ou un bâtiment que nous avons pour une église ici à Ulverston. Et que si Dieu voulait que je sois là, tu sais, peut-être que des choses se passent là-bas et qu'il y a des promesses et des choses que Dieu veut faire ou qu'il y a certaines personnes à rencontrer. La seule façon pour moi de savoir que je serai là au bon moment, quand ces personnes seront là, c'est pas le Saint-Esprit. Cela peut sembler insignifiant. Les gens disent, oh, tu peux descendre quand tu veux. Aller au bâtiment quand tu veux. Y aller quand tu as envie. Y aller quand c'est pratique. Non, va quand le Saint-Esprit te dit d'y aller. Peu importe le magasin, qu'il s'agisse d'un certain type de supermarché ou d'un autre type de supermarché, faites simplement les petites choses que le Saint-Esprit vous dit de faire et vous verrez Dieu faire des choses étonnantes. Il vous a fixé des tas de rendez-vous. Comme je l'ai dit au début, c'est comme ces surprises derrière la porte du calendrier de l'Avent. Si vous voulez être comme Siméon et vous laisser conduire par le Saint-Esprit, même une chose quotidienne normale, et un événement quotidien normal, si vous êtes conduit par l'Esprit, aboutir à quelque chose d'étonnant. Dans le cas de Siméon, la promesse de sa vie s'est accomplie et s'est consignée dans l'Écriture. Amen. Nous avons certainement une Écriture dans Apocalypse 22, verset 20, où Jésus dit qu'il vient rapidement. Il dit, voici, non, celui qui témoigne de ces choses dit, certes, je viens rapidement. Puis il dit, amen, viens donc, Seigneur Jésus. N'est-ce pas étonnant? Pourrais-tu dire cela? Pourrais-tu dire, viens donc, Seigneur Jésus? Il dit qu'il vient vite, rapidement. Alors, tu sais que les Écritures sont claires. Quoi que tu perçoives comme rapide, la seule raison pour laquelle Jésus ne serait pas vite ou rapide, c'est qu'il n'est pas long et qu'il retarde dans l'accomplissement de ses promesses. C'est qu'il veut que tout le monde se repente. Mais si Jésus revient rapidement, peux-tu dire, viens donc vite, Seigneur Jésus, ou amène à cela. Tu vois, souvent, si tu n'es pas là où tu devrais être dans le Seigneur, les gens ne peuvent pas prier cela. Ils ont peur. Ils ont une peur. Ils n'attendent pas le retour de Jésus avec impatience. Ils ont un agenda, ils cachent des choses. Ils ne sont pas heureux de son retour parce qu'il va les surprendre. Il va venir comme un voleur dans la nuit et les trouver en train de faire des bêtises. Alors pendant que nous avons le temps et pendant que nous sommes aujourd'hui, assurons-nous que nous nous repentons et que nous retirons de nos vies les choses qui devraient l'être et que nous pouvons dire avec un cœur honnête et clair devant Dieu, par le Saint-Esprit, que nous pouvons vraiment dire « Amen, même ainsi vienne ». Le retour de Jésus devrait être un moment excitant et merveilleux pour n'importe quel chrétien. Et si ta vie ne s'aligne pas ou si ton style de vie ou ce que tu fais n'honore pas Dieu et que tu le sais, alors tu as l'occasion de te repentir parce que Dieu veut que personne ne périsse. Mais il veut que tout le monde se repente. Alors repends-toi pendant que tu le peux encore aujourd'hui. Assure-toi que Jésus est le Seigneur. Fais de lui le Seigneur de ta vie. Permets-lui d'avoir le contrôle. Reconnais que tu n'es pas en mesure de diriger ta propre vie. Sois rempli de l'Esprit, grandis dans l'Esprit, vis dans l'Esprit, marche dans l'Esprit, sois baptisé dans l'Esprit. Amen. Sois certainement conduit par lui. Alors, assurons-nous que nous sommes prêts pour le retour de Jésus et nous pouvons dire, viens vite, Seigneur Jésus. Nous appelons cela le retour de Jésus. C'est en fait le deuxième avant. Jésus revient et c'est formidable. Le verset 32 parle d'une lumière pour apporter une révélation aux païens. Certaines traductions plus contemporaines disent une lumière révélant Dieu aux nations non-juives. N'est-ce pas incroyable que nous, les païens, puissions connaître Jésus-Christ, qu'il soit une lumière pour nous, que nous puissions nous tourner vers lui? Quel cadeau! Nous voulons nous assurer que nous ne prenons pas à la légère cette promesse et ce cadeau. Il est crucial que nous reconnaissons que le fait d'avoir été greffé ne signifie pas que nous sommes permanents ou que nous savons un droit inhérent à rester Dieu. Dieu pourrait nous retirer et j'aimerais examiner certaines choses à ce sujet. Je vais lire Romains 11, verset 19. Tu diras alors, des rameaux ont été arrachés pour que je sois greffé. Bien dit, c'est à cause de l'incrédulité qu'ils ont été arrachés et toi tu es debout par la foi. Ne sois pas hautain, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné des rameaux naturels, c'est-à-dire les Juifs, il ne t'épargnera peut-être pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, mais envers toi, bonté si tu persévères dans sa bonté. Sinon, vous seriez aussi retranchés et eux tous, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu peut les greffer de nouveau. En effet, si vous avez été retranchés de l'olivier sauvage par nature et greffés contrairement à la nature sur un olivier cultivé, combien plus cela qui sont des branches naturelles seront-ils greffés sur leur propre olivier? Alors que nous attendons avec impatience le retour de Jésus et que nous regardons nos vies et ce à quoi elles ressemblent, si nous sommes obéissants et s'il y a des domaines à changer, à se repentir, si Jésus est le Seigneur ou nous sommes remplis de l'Esprit, s'il y a des choses que nous devons appliquer, la mission ou un plan qu'il nous a donné et auquel il nous a appelés, lorsque nous regardons ces choses à la lumière de sa seconde venue, nous voulons nous assurer que nous reconnaissons à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Si vous continuez dans la bonté, en faisant les choses à la manière de Dieu, en étant conduit par l'Esprit Saint, avec Jésus au contrôle, si vous continuez dans cette bonté, alors vous obtiendrez la bonté. Mais si vous choisissez de vous éloigner, de détourner votre foi de Dieu et que vous mettez votre foi dans quelque chose d'autre ou en vous-même ou dans une autre idée folle, vous mettez votre foi ailleurs que là où elle devrait être, c'est-à-dire en Jésus-Christ, lui étant le Seigneur, si nous mettons notre foi en nous, si nous le faisons pas, alors vous serez retranchés tout comme les Juifs l'ont été à l'origine. Nous voulons donc nous assurer que nous reconnaissons qu'il y a une sévérité en Dieu. Ce n'est pas seulement unilatéral, ce n'est pas seulement aimer la bonté, la merveilleuse bonté de Dieu, c'est aussi que notre Dieu peut être sévère, il peut être strict, il exige la repentance, il veut voir le changement, il veut voir du fruit. C'est ainsi que notre Père est glorifié lorsque nous produisons beaucoup de fruits. Alors si nous attendons avec impatience le retour de Jésus, assurons-nous de continuer dans la bonté de Dieu à marcher dans ses voies. Parce que si Dieu voulait, vous savez que nous sommes un peuple privilégié. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette petite ville où je vis, dans cette petite cabane en bois? Qu'est-ce que j'ai à faire avec Jésus-Christ, un roi juif qui est venu les sauver? Qu'est-ce que j'ai à faire avec un Dieu né en tant qu'homme il y a 2020 ans en Israël? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh bien, à cause de ce que Jésus a fait, un cadeau merveilleux, une occasion pour le monde entier de le connaître parce que Dieu a aimé le monde entier. Mais cette bénédiction est venue à travers la religion juive, ou elle était venue à travers les Juifs. Jésus lui-même était un Juif. Une lumière est venue aux païens par l'intermédiaire du peuple juif. Et si le peuple juif, à cause de son incrédulité, de son ignorance et de son rejet de Jésus, a été éliminé, je ne veux pas être autant négligent, stupide et irrévérencieux. Ou je veux garder une révérence envers Dieu pour continuer à rester connecté à Jésus, à être connecté à son arbre, à ses racines, pour continuer à demeurer dans la vie. Amen. Il est important que nous reconnaissons qu'il y a une bonté, une sévérité de la part de Dieu. Et nous découvrirons à son retour lorsqu'il jugera, nous le découvrirons. Alors maintenant que nous sommes encore aujourd'hui, assurez-vous de regarder vers son retour. Et oui, nous célébrons Noël et nous en profitons peut-être en ce moment, mais laissez ce sentiment qu'il reviendra à nouveau s'agiter dans vos cœurs. Je ne veux pas que ce soit une peur, mais plutôt un moment excitant et merveilleux. Tout comme Noël l'est pour la plupart des gens, c'est un temps de célébration, c'est un temps pour regarder vers le haut, c'est un temps pour se réjouir. C'est le moment de voir la paix, la justice, la bonté et notre Dieu qui vient sauver il vient nous sauver. Ce sont de bonnes choses, mais je dis que si tu ne marches pas comme tu le devrais, et que tu sais que ta vie n'est pas bonne, alors fais les ajustements maintenant pour pouvoir t'enthousiasmer pour le deuxième retour de Jésus, sa deuxième venue, et être en feu et attendre cela. Amen. J'aimerais maintenant revenir aux Philippiens chapitre 2. Vous savez, les gens ont parfois l'impression que cette marche chrétienne est difficile, que je dois me repentir, que je dois faire les choses correctement, que je dois faire fonctionner ces choses, que je dois m'assurer que Jésus est Seigneur et que je dois m'assurer que Jésus a le contrôle et que je suis rempli de l'Esprit. Vous devez vous en assurer parce que c'est le point le plus crucial. Mais vous savez, il ne s'agit pas de faire plus d'efforts par votre propre chair. La chair ne peut pas tuer la chair. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Il ne s'agit pas de faire des efforts pour être un chrétien ou pour être prêt à son retour. Tu ne peux pas te nettoyer toi-même. Il s'agit que Dieu travaille en tant que tu te soumettes à son contrôle, à ce contrôle. Il s'agit que Dieu fasse ce qu'il veut faire en toi. C'est comme être moulé par Dieu sur le tour du potier. C'est comme si ta responsabilité était de permettre à Dieu de faire ce qu'il veut. Quand nous disons que Jésus est le Seigneur et que Jésus est le Maître et que Jésus t'ordonne de te repentir ou exige la repentance, quand nous regardons ces choses, c'est comme si tu ne pouvais pas faire ces choses par toi-même, sans lui. Il faut que ce soit par lui et sa puissance. Sinon, nous n'aurions même pas besoin de Jésus. Nous n'aurions même pas besoin du Saint-Esprit. Donc, ta confiance doit être en Dieu, qu'il est celui qui fera ce qu'il veut faire à travers toi si tu lui fais confiance. Amen. C'est comme si tu étais sur le tour d'un potier qui te façonne et si tu n'es pas huileux, et que tu ne te laisses pas façonner, je pense que le mot malléable est utilisé. Si tu n'es pas malléable, à quoi sers-tu pour celui qui te façonne? Mais si tu lui permets de faire ce qu'il veut, tu n'as pas de résistance, pas de programme personnel, tu ne veux plus ce que tu veux d'habitude, tu veux ce qu'il veut, tu lui permets simplement de te modeler sur cette roue et il te transformera en ce que tu es censé être sans que tu fasses beaucoup d'efforts parce que les commandements de Dieu ne sont pas lourds. Ces commandements ne sont pas difficiles, sans joug, et faciles et sans fardeau et léger. Comment est-ce possible si nous sommes censés faire toutes ces choses différentes? Parce que tu t'appuies sur lui et sur ses promesses et que tu lui permets à lui et à ses promesses de faire ce qui doit être fait en toi. Je disais dans Philippiens chapitre 2 et verset 13, c'est Dieu qui travaille en nous à la fois pour vouloir et pour faire pour son bon plaisir. C'est merveilleux. Regardons ce que dit la Bible amplifiée. Dans l'amplifiée, il est dit, non pas dans votre propre force, car c'est Dieu qui est tout le temps à l'œuvre en vous. C'est lui qui dynamise et crée en vous la puissance et le désir à la fois pour vouloir et pour faire pour son bon plaisir et sa satisfaction et sa délectation. Ta responsabilité est de t'en remettre à lui, de t'en remettre à Jésus. C'est sa force, c'est sa puissance qui est à l'œuvre en toi. C'est lui qui donne de l'énergie, c'est lui qui fait en sorte que les choses se passent. Ta responsabilité est de t'en remettre à lui et à ses promesses et de te mettre à l'écart. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas coopérer. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas commencer à rentrer à la maison comme le fait le fils prodigue. Tu sais, cela ne veut pas dire que tu dois te purifier, que tu te purifies, mais d'où vient le savon? Si tu te purifies toi-même, Ce que je veux dire, c'est que même lorsque les Écritures parlent de se purifier, cela signifie qu'il faut s'appuyer sur Dieu et sur sa façon de faire. Tu ne peux rien faire indépendamment de lui. Amen. Même ta repentance doit se faire en Dieu. Jésus est le Seigneur de ta repentance. Le juge à venir, le roi à venir est le Seigneur de ta repentance. Tu ne peux pas simplement décider aujourd'hui de quoi tu vas te repentir. Tu peux coopérer avec Dieu, avec la conviction du Saint-Esprit, mais même si tu fais cela, d'où vient cette conviction? Elle est venue par Dieu. Elle est venue de Dieu. C'est lui qui commence tout. C'est lui qui donne de l'énergie pour tout. C'est lui qui fait le travail en toi pour qu'il puisse obtenir la gloire. Ta responsabilité est de t'écarter du chemin. Si tu aides beaucoup Dieu, il peut faire un peu. Si tu aides un peu Dieu, il peut faire beaucoup. Si tu n'aides pas du tout Dieu, tu t'écartes du chemin, il peut faire n'importe quoi. C'est la citation d'Atterbert que Joseph utilise. Alors écarte-toi du chemin et laisse Dieu être Dieu dans ta vie et tu grandiras rapidement. Tu attendras avec impatience son retour. Tu seras dans une position où tu seras en règle avec Dieu, en bonne position avec Dieu. Tu seras dans un lieu de communion, de proximité, d'intimité et tu profiteras au maximum du don de la vie éternelle. Qu'aurais-tu à craindre? Je ne parle pas de la crainte révérentielle, mais de la peur panique. Les Écritures nous disent que l'amour parfait chasse toute peur, parce que la peur apporte avec elle un sentiment de jugement et de tourment. Si tu grandis dans l'amour de Dieu, et en t'appuyant sur ses promesses, en obéissant aux commandements qu'il te donne de faire, et en obéissant par l'Esprit qui te donne de la force, alors tu vas grandir dans l'amour. Et au fur et à mesure que cet amour grandit et mûrit, il va chasser la peur, ce sentiment de panique et d'inquiétude. Et Jésus revient et je ne suis pas prêt, je ne suis pas propre, je ne suis pas bien. Mets-toi en règle. Mets-toi en règle avec lui et sa puissance. C'est lui qui est à l'œuvre en toi, en nous. Amen. Appuyez-vous donc sur ses promesses. Appuyons-nous sur ses promesses. Jésus est vraiment un bon sauveur et le Saint-Esprit est vraiment un bon générateur. Cette puissance qu'il déverse en nous, c'est une puissance le type dynamite. Cela ne veut pas vraiment dire que c'est de la dynamite, mais c'est comme si c'était de là que vient le mot dynamite. C'est cette puissance, cette dynamite. C'est juste la puissance pour vivre la vie chrétienne qui vient de lui. Une fois de plus, la Bible amplifiée dit, non pas dans vos propres forces, car c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous, en créant en vous la puissance et le désir pour vouloir et travailler pour son bon plaisir, sa satisfaction et sa joie. Wow! Nous attendons donc le second avènement. Nous attendons sa venue et si tu fais les choses que tu es censé faire, si tu t'appuies sur les promesses de Dieu, si tu fais confiance à Jésus, si tu fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, si tu ne te sers pas de ta propre intelligence, si tu avances en lui, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé, mais si tu es en règle avec Dieu, c'est la mesure, le standard. Et si tu travailles à ton salut, mais avec révérence et humilité, tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement. Une autre façon de le dire, avec crainte et tremblement. Tu avances petit à petit, alors Dieu voit la fin depuis le début. Et à son retour, quand la trompette sonnera, en un clin d'œil, tu pourras être transformé, changé en un clin d'œil pour être connu comme tu l'es pleinement. Comme si, en un clin d'œil, tu étais soudain devenu tout ce qui est censé être et que tu avais la révélation et de qui tu es vraiment au retour de Jésus. C'est merveilleux. Mais pour être dans cette position, tu dois t'assurer que tu es en accord avec lui maintenant. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait, comme si tout fonctionnait correctement. Cela veut dire que tu dois avancer dans ce qu'il te donne, te demande de faire. Être obéissant, conduit par l'Esprit, faire sa volonté, mais par sa puissance, à l'œuvre en toi, en nous, en vous. C'est la partie importante, amen, c'est la partie importante, même si vous n'étiez pas l'article fini, le produit fini. Il y avait un ange que Michel-Ange fabriquait. Je pense que c'est la bonne citation. Michel-Ange était... chargé de sculpter un ange dans du marbre ou de la pierre et quelqu'un l'a interrogé à ce sujet et il a dit, j'ai vu l'ange dans le marbre et j'ai sculpté jusqu'à ce que je le libère. C'est ce que Dieu fait avec toi. Il peut voir l'ange dans le marbre. Il peut voir qui tu es censé être. Il peut voir à quoi tu ressembleras. Quand tu seras libéré, alors il travaille à sculpter et à déplacer les choses jusqu'à ce que l'ange t'apparaisse et qu'il soit libéré. Mais si tu n'étais pas complètement prêt, mais que tu lui permets de faire le travail qu'il veut faire, même si tu sais juste une partie de tes caractéristiques sortaient et que tu n'avais pas fini à son retour ou à sa seconde venue, alors, en un instant, il peut te transformer en celui que tu es censé être. Mais ta responsabilité est de faire ce qu'il te dit de faire maintenant et il n'y a aucun moyen de contourner cela. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses maintenant et pour ne pas avancer en lui comme il te le demande maintenant. Il revient pour une épouse sans tache ni ride ni défaut. C'est une norme élevée et tu n'as aucun moyen de te rendre sans tache ni ride ni défaut. En fait, si tu essaies de te réparer sans le Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, sans le Seigneur du Seigneur, sans qu'il ait le contrôle, alors tu vas juste créer plus de défauts, plus de rides, plus de tâches, tu vas aggraver le problème. Va simplement à lui. Tombe sur ses promesses et permets-lui de faire ce qu'il veut faire en toi. Jésus revient et c'est une période formidable, la période de Noël qui est très agréable pour beaucoup de gens. Certains n'aiment pas ça. Ce n'est pas agréable pour tout le monde. Certaines personnes ont des souvenirs douloureux, mais je dis que si nous regardons le côté chrétien de la chose, pas ce que le monde en a fait, comme beaucoup de nourriture et beaucoup d'argent dépensé et toutes ces choses, je veux dire que lorsque nous regardons la réalité de ce que cela signifie pour nous que Jésus est venu sur cette planète, nous savons qu'il est venu sur cette planète, nous savons que nous avons fait l'expérience de Dieu, nous l'avons senti et ressenti. Il est trop tard pour que quelqu'un puisse me dire que Jésus n'était pas réel. C'est trop tard. Je connais Jésus déjà, j'apprends déjà à le connaître, je développe déjà ma relation avec lui. Il s'est déjà présenté à moi, je sais déjà qui il est. Il est trop tard pour me dire que Jésus n'est pas réel. Je sais donc parce qu'il est venu, parce qu'il s'est révélé, qu'il est fidèle à sa parole et sa promesse. Alors réjouissons-nous de son retour. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, ce n'est pas le moment d'être triste, c'est le moment de se réjouir. Ce n'est pas une responsabilité chrétienne de regarder autour du monde en voyant toutes les mauvaises choses qui se produisent et dire « Ah, ça fait peur !» Nous levons les yeux comme Joseph l'a fait. Et il y a quelques années, dans une vidéo qu'il nous a envoyée, nous levons les yeux vers lui, celui qui peut sauver, celui qui sauvera. Amen. Jésus arrive bientôt. Soyez prêts. Préparez-vous. Soyez enthousiastes. Passionnez-vous pour lui. À Noël, oui, profitez de Noël en vous souvenant de son premier retour. Mais n'oubliez pas qu'il revient en tant que juge. Il revient comme un lion rugissant. Il reviendra sur un cheval blanc avec le nom du roi des rois et du seigneur des seigneurs écrit sur sa cuisse. Il reviendra pour juger. Il ouvrira les livres et nous devrons tous rendre compte de nos vies. Oui, c'est effrayant d'une certaine façon et cela apporte de la crainte, mais c'est aussi excitant. Alors regardez à cela, regardez à lui, amen. Regardons le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 27, qui dit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, mais qu'après cela il y a le jugement, ainsi le Christ a été offert une fois pour porter les péchés d'un grand nombre. À ceux qui l'attendent avec impatience, il apparaîtra une seconde fois, sans péché, mais pour le salut. » Cela signifie que la prochaine fois, il ne viendra pas pour régler le problème du péché. Il ne viendra pas pour mourir pour le péché. Il viendra en dehors du péché. Cette fois-ci, il vient pour le salut. Mais pour qui vient-il? Quand il viendra la deuxième fois, pour qui vient-il? Il vient pour ceux qui l'attendent avec impatience. C'est pour eux qu'il revient. Oui, il est prévu que nous soyons jugés. Il est prévu que l'homme meure une fois, puis qu'il y a un jugement. Mais le Christ a offert a été offert pour les péchés d'un grand nombre, si nous lui faisons confiance à lui, notre Sauveur, ce n'est pas seulement une chose ponctuelle ou au milieu de l'Église, vous levez la main et dites, je donne ma vie à Jésus, je lui fais confiance, je fais confiance à ce qu'il a fait, je fais confiance qu'il est mon Sauveur, amen. C'est tout. Je suis maintenant sauvé. C'est une confiance continuelle en lui pour notre salut, qu'il a payé pour nos péchés et un état continuel de confiance en Jésus, qu'il a payé le prix. Nous avons confiance en ce qu'il a fait, que sa vie était suffisante, que le prix qu'il a payé était suffisant, que si nous confessions, il pardonnerait. C'est un Dieu étonnant et merveilleux et nous nous accrochons à ses promesses. C'est pourquoi il couvre ou efface les péchés de beaucoup de gens. Alors soyez impatients, soyez dans l'expectative, attendez-le avec impatience. Cette écriture hébraïque, dans Hébreux 9, verset 28, où il est dit « à ceux qui l'attendent avec impatience ». C'est comme Siméon, dont nous avons parlé plus tôt. C'est comme Siméon, il était dans l'expectative, il était impatient, il était enthousiaste, il cherchait Dieu, il était conduit par le Saint-Esprit. Assurons-nous de suivre ses exemples. Son exemple. Soyez impatients pour Jésus. Amen. Soyez impatients pour lui. Je voudrais terminer par ceci. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 dit. Mais bien-aimés, n'oubliez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à venir, ne tarde pas à tenir ses promesses comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La raison pour laquelle Jésus n'est pas revenu aujourd'hui, la raison pour laquelle le jugement n'a pas lieu maintenant et la fin du monde n'a pas lieu, c'est que Dieu aime tant qu'il est si gracieux qu'il ne veut pas qu'un seul périsse, qu'il veut que tous se repentent. Alors, utilise le temps maintenant pour te repentir, pour le chercher, pour profiter au maximum des opportunités qu'il t'a données. Puis il parle de ce qui va se passer. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne sait donc quand il arrivera. Les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se fondront dans une chaleur ardente. La terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. C'est pourquoi, puisque toutes ces choses seront dissoutes, à cause de toutes ces choses, à cause de ce qui se passe, à cause de ce qui va se passer, et la fin du monde, quel genre de personne devez-vous être dans une conduite sainte et dans la piété attendant et attend la venue du jour du Seigneur à cause duquel les cieux seront dissous, étant en feu et les éléments se fondront avec une chaleur ardente? Néanmoins, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels la justice habite. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la justice habitera. La justice, la façon de faire et d'être de Dieu, c'est ce qui habitera. Il ne s'agira pas des idées de l'homme, de nos propres idées, de ce que nous pensons être la meilleure pour nous. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront des endroits où la justice habitera. La manière de faire selon Dieu, c'est ce qui y habitera. C'est comme ça que ça se passera. Alors, si tu n'aimes pas la façon de faire et d'être de Dieu maintenant, si tu n'aimes pas la façon de faire de Dieu maintenant, alors tu dois te repentir parce que tu n'aimeras pas la façon de faire de Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre vers lesquels nous nous tournons. Mais réfléchissez à la conduite et au mode de vie que vous devriez adopter maintenant. Car nous reconnaissons que ce monde entier va être brûlé, qu'il va être enroulé comme un rouleau, l'univers enroulé comme un rouleau ou la terre enroulée. Veillons à profiter au moment du don de la vie éternelle. Veillons à respecter et à pratiquer ce que nous devrons faire dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Veillons à pratiquer la façon dont Dieu est juste et pratique la justice. C'est ce qui va être important. Amen. Il est dit au verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans l'attente de ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui en paix, sans tâche et irréprochable. Et considérez que la patience de notre Seigneur est le salut. Veillons donc à nous appliquer à être trouvés en paix, c'est-à-dire faire tous les efforts nécessaires pour être en paix avec lui, à faire tous les efforts nécessaires pour être en paix avec Jésus. » Certaines personnes étaient très tristes et contrariées que Jésus soit apparu il y a plus de 2020 ans sous la forme d'un petit bébé. Veillons à ce que nous le rencontrons dans des conditions pacifiques. Veillons à ce que nous soyons dans un endroit où, lorsque Jésus reviendra, la première chose qu'un ange nous dira, n'aie pas peur. N'ayez pas peur. Ce sera formidable, n'est-ce pas? Si nous sommes en mesure de le faire, assurons-nous que nous vivions la vie qu'il nous a appelé à vivre. Assurons-nous de vivre une conduite sainte, une conduite juste, de changer, de faire ce qu'il veut que nous fassions, de vivre la vie chrétienne. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui ne se contente pas d'exiger ou de commander des choses de nous, mais qui nous donne le pouvoir de vivre la vie ou de faire ce qu'il nous a demandé de faire. S'il nous demande de faire quelque chose, il y a la foi qui est attachée. Si nous dirigeons notre foi vers lui avec la chose qu'il nous a demandé de faire, nous serons capables de le faire. Si nous mettons notre foi en lui, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose qui semble impossible, si notre foi est en lui, il fournira ce qui est nécessaire pour que cela se produise. Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que nous devons être des personnes vivant une vie de bonne conduite, en paix avec le roi qui va revenir. Je vous dirai de passer un excellent Noël, essayez de ressentir cette anticipation et cette attente que le monde avait à l'époque lorsqu'il est dit que la lumière a brillé dans les ténèbres. Quel monde sombre! C'était lorsque Jésus est arrivé. C'était une époque difficile et les Romains conquéraient, harcelaient, dictaient, s'emparaient des gens et les traitaient mal, abusant d'eux. Et c'était une époque difficile à vivre. Et dans ce lieu de désespoir et de ténèbres, Jésus est né dans cette lumière. Il a apporté la lumière dans le monde, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas compris. Eh bien, si nous vivons dans un monde de ténèbres maintenant, nous devons briller comme des lumières, nous devons briller comme des étoiles. Mais je vous le dis, il y a quelqu'un qui va revenir, il y a une lumière qui va revenir, il y a une lumière qui va revenir sur cette terre, et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ le Seigneur. Alors soyons prêts pour lui. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie d'être venu sur cette planète il y a 2000 ans. Je te remercie d'être venu accomplir les promesses comme tu l'as dit. Seigneur, je demande que tous ceux qui regardent cette vidéo soient étirés dans leur cœur par ton esprit pour vivre la vie que tu les as appelés à vivre. D'attendre ton retour, de regarder ton retour et d'être dans une position où ils savent qu'ils vont te rencontrer dans des conditions pacifiques. Je demande, Seigneur, que nous recherchions chaque aventure que tu as rendue disponible chaque jour. Que tu nous rappelles, que tu ramènes à notre mémoire par ton esprit l'idée que tu as quelque chose à faire, que tu as des instructions et des commandements tout le temps pour nous et que ces choses mènent à des aventures merveilleuses et à des surprises. Je te remercie, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu as envoyé ton esprit pour nous donner la puissance, pour nous guider, pour nous conduire. Seigneur, aide-nous à tirer le meilleur parti de ces petits moments. Montre-nous comment tirer le meilleur parti de ces moments apparents insignifiants qui ne semblent pas importants, mais qui se révèlent être absolument incroyables, merveilleux. Nous voulons faire ta volonté dans les détails et en toutes choses, Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, je te demande de convaincre ceux qui ne veulent pas se préparer et qui ne réalisent pas l'époque et la saison dans lesquelles ils vivent. Je te demande de les convaincre de se retourner vers toi et de trouver la paix, le pardon et la miséricorde dont ils ont besoin pour aller de l'avant. Seigneur, viens vite. Viens sur cette terre. Reviens vite, Seigneur. Je te remercie pour ton deuxième avant. En ton nom, Jésus. Amen.
If you want to abide in the Spirit, to grow up as a Christian, and to finish the race set before you. Wake up, time is running out. The book from Joseph Hedgecock is written for you. Volume 1 in the Wake Up series gives simple, detailed instructions about how to build solid spiritual foundations and the steps needed to become truly spiritual. It gives practical examples to teach you how to abide in God's presence and enjoy the benefits of your salvation. The body of Christ needs to wake up. Get your copy from Servants of the Lord Ministries today. Imagine being a prisoner when there's actually a way to freedom. Instead of staying in your prison, why not discover God's way of escape? The Guilted Prison by Joseph Hedgecock is a book for those who want to walk with God, for those who want to be free and have no intention of being deceived. It identifies the tactics of the enemy that hinder you. It clarifies how to rescue yourself from obvious and subtle traps. If you walk with the Lord but are not growing as you should, this book will help you overcome your flesh and the devil's accesses. Discover freedom as you walk in the light. This book and others are available from Servants of the Lord Ministries today.